Architecture intérieure, regard croisé, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Regard croisé, l'émission qui donne la parole aux architectes d'intérieur. Architecte d'intérieur, ben voilà, ne pas confondre avec l'architecte tout court. Alors mieux connaître cette profession, savoir quand et comment faire appel à eux pour ou à elles et pour quels avantages. Chaque mois, nous décryptons ensemble cette profession à travers d'exemples concrets, de rencontres, de projets. Et nous allons partir ce mois-ci sur un beau projet, Éclat Campus. On est ravis d'accueillir Alexandre Montbrun. Bonjour Alexandre.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes directeur de projet Océanis chez Océanis Promotion à Montpellier. Et on est ravis d'accueillir notre grand témoin du jour chez les architectes d'intérieur, Bérangère Tabutin. Bonjour Bérangère.
Bonsoir.
Donc CFAI, Conseil français des architectes d'intérieur, architecte d'intérieur dans l'agence B-Bonus, vous êtes associé, administratif également, administratrice, pardon, Île-de-France du Conseil français des architectes d'intérieur. Voilà, un titre à rallonge, mais beau programme. Et avec vous, on va découvrir justement ce projet. Il y a eu appel d'offres, vous avez remporté cet appel d'offres. Vous allez nous parler justement de comment vous avez pensé ce projet avec votre approche, une approche avec une thématique bâtiment durable. Alors, on sait que c'est tendance en ce moment. Mais tout d'abord, pour présenter ce projet, on va donner la parole à Alexandre Montbrun. Parlez-nous un petit peu, présentez-nous justement Océanis Promotion et ses différentes activités.
Alors, Océanis Promotion est un promoteur immobilier basé à Montpellier, créé en 98 et qui s'est développé tout au long de son histoire autour de produits étudiants et de produits gérés. Et depuis quelques années, nous développons, grâce à la force de notre groupe et à la force de nos différentes filiales, un concept qui s'appelle Éclat Campus, dont le premier a ouvert à Massy-Palaiseau en 2019.
Éclat, ça veut dire quelque chose ?
Ça voulait dire European Campus for Leadership Activity et l'acronyme aujourd'hui s'est transformé en Éclat et la marque commerciale vit sous le nom d'Éclat. Et aujourd'hui, ça continue de rester comme ça. Donc, c'est ce qui est utilisé communément aujourd'hui. Et ce projet Éclat, le premier projet Éclat, et on fait des petits, nous avons décidé d'en développer d'autres sur le territoire français et sur le territoire francilien notamment. Et dans ce cadre-là, on a travaillé un projet à Noisy-le-Grand, sur la commune de Noisy-le-Grand, sur la réhabilitation d'un immeuble. Un ancien siège social d'une grande compagnie d'assurance de près de 40 000 m2 qu'on a décidé de transformer en Éclat Campus Noisy-le-Grand. Et on a lancé donc un appel d'offres pour lequel Bérangère Tabutin a répondu et a été désigné.
A été primé et puis donc vous commencez à travailler. Je reviens juste sur le Éclat, justement, ce co-living, on en parle beaucoup, hein, ces résidences étudiantes. Alors on sait qu'en plus il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés, hein, pour préparer leur retraite, à investir dans ce fameux LMNP, loueur meublé non professionnel, que ce soit dans les résidences seniors ou les résidences étudiantes. Et c'est vrai qu'on voit sur le site internet éclat-campus.com, voilà, on a cette expérience du co-living, on a l'impression que c'est vraiment une résidence haut de gamme, hein. Ils vont être choyés, ces étudiants.
Ah, mais c'est une résidence haut de gamme, ils sont très très choyés. Éclat Campus aujourd'hui, c'est une quantité incroyable de services. On est à près de 20 services proposés aux étudiants gratuitement.
Mmh. Minimum 2, hein, je crois, pour faire du LMNP. Donc là, on est bien au-delà.
Mais on n'est pas dans du LMNP. Et toute la différence, c'est que la force du groupe aujourd'hui nous permet de pas aller sur du LMNP. C'est qu'aujourd'hui, on construit, Océanis construit, mais notre propre foncière groupe achète les murs et notre propre filiale d'exploitation Éclat exploite les murs. Donc quelque part, aujourd'hui, on n'est pas dans cette mécanique du LMNP qu'on peut connaître chez d'autres promoteurs.
C'est complètement intégré.
C'est complètement intégré, tout à fait. Océanis développe le produit immobilier, développe le concept en collaboration avec les équipes d'exploitation, en collaboration avec les architectes d'intérieur, parce qu'ils sont un maillon central du développement de ce produit. Et effectivement, avec la Campus, c'est des mesures hors normes. C'est aujourd'hui sur Noisy, c'est 3600 m2 de partie commune sur Massy-Palaiseau, c'est 2500 m2 sur Noisy-le-Grand, et c'est des dimensions en normes. Sur Massy-Palaiseau, c'est 961 appartements avec une capacité d'accueil de 1300 personnes. Mmh. C'est une ville, véritablement. Donc, il faut qu'on ait des services, il faut qu'on ait des moyens qui soient à la hauteur de ces ensembles-là.
Oui, Massy-Palaiseau, demain Noisy, c'est stratégique, hein. Massy-Palaiseau, ville étudiante.
Proximité du plateau de Saclay. Proximité du RER.
Voilà, exactement. 30 minutes, hein, passant par le RER B et C pour les franciliens qui nous écoutent et qui connaissent ça bien. Noisy-le-Grand, alors ce projet, parlez-nous-en, c'est vrai, des bureaux, pas évident au départ. Comment ça s'est passé ? Tiens, comment on participe, Bérangère Tabutin, vous aviez aviez déjà travaillé sur cet aspect, sur des projets aussi grands. Comment ça se passe?
Alors, aussi grands, non. Des projets de bureau et des projets de flex-office qui se développent maintenant vraiment beaucoup, beaucoup, surtout depuis le confinement où on se met à télétravailler beaucoup plus. Oui, évidemment. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant dans ce projet, c'est qu'il y ait à la fois de l'habitation et à la fois du bureau et de l'espace de partage de services sur le même site pour les mêmes résidents.
D'accord. Vous aviez regardé déjà ce qui se passait sur d'autres campus, là le campus de Massy-Palaiseau, ou pas du tout?
Alors, avant de répondre à la demande d'Océanis, non. Et évidemment, dès qu'ils m'ont mandaté, j'ai couru voir. Et c'est vrai que c'est un très très beau produit.
Quoi. Mmh.
C'est
d'accord.
Quand même très qualitatif.
Est-ce qu'il y avait des consignes en particulier qui avaient été données, ou c'était vraiment carte blanche quand on lance justement cet appel d'offres?
La consigne, elle est budgétaire, essentiellement. On a un cadre budgétaire à respecter, on fait appel à l'intelligence de l'archi d'intérieur pour rester dans ce cadre budgétaire. Et je pense que pour le coup, Bérangère a bien répondu à cette contrainte quelque part du budget, mais aussi cette contrainte de la thématique. Mmh. On avait décidé de mettre en place une thématique de développement durable sur cette opération, et Bérangère l'a bien traduit, puisqu'elle l'a traduit sur du développement durable lié au réemploi. Et je pense que c'est une très belle façon d'amorcer effectivement le développement durable. Dans un immeuble de bureau sur lequel on part aujourd'hui de réversibilité, des immeubles de bureau vers du logement, on est sur du réemploi quelque part d'un habitat, enfin d'une construction, pour l'amener vers un autre type d'usage. Et je pense qu'on est bien dans la thématique, et ça a été le critère pour nous, c'était cette thématique du développement durable au sens large. Et je pense qu'elle l'a très bien exploité, elle nous a amené vers des horizons qu'on n'aurait pas imaginés.
Alors justement, quels ont été vos partis pris, si vous pouvez nous le décrire? Alors c'est pas évident, on n'a pas d'image en radio, mais expliquez-nous qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui vous a
inspiré. En fait, développement durable, c'est pas, on pense souvent à l'aspect écologique ou à des matériaux biosourcés, mais c'est pas que ça. Le développement durable, c'est vraiment une approche économique de la chose et qui touche aussi la partie humaine. Donc ce qui était primordial pour nous, c'était de mettre la notion de temps dans le projet et de pas livrer juste un projet fini et puis c'est tout, mais vraiment d'intégrer le processus du chantier lui-même dans le projet, la façon de faire le chantier. Là où j'ai beaucoup de chance, c'est que Océanis est quand même particulièrement sensible à l'architecture, puisqu'il y a une équipe d'architectes d'intérieur au sein d'Océanis, qui est vraiment pas fréquent. Il y a souvent des architectes, mais pas forcément des architectes d'intérieur. Donc, pour échanger avec eux, déjà, c'est très, très facile. Et puis, en fait, c'est une combinaison de plein d'aspects. Alors, de gestion de contraintes de chantier, on va dire, d'équilibre budgétaire, c'est-à-dire qu'on a des très belles dalles en béton brut, donc on laisse les plafonds en béton brut. Ça nous permet de faire une économie à ce niveau-là, qu'on va peut-être injecter dans des chaises qui vont coûter un tout petit peu plus cher parce qu'elles sont fabriquées à Ivry-sur-Seine, donc vraiment à proximité, chez Maximum, qui fait des chaises avec du plastique réutilisé. Utiliser des piétements qui sont des gazelles de peintres aussi en réemploi.
Du coup, on va être en géosourcé là aussi.
Voilà, donc l'idée, c'est de trouver des matériaux très locaux.
Alors justement, tiens, on fait un petit focus sur ce fameux réemploi. Peut-être tout le monde n'est pas familier avec le terme. L'idée, ça va être d'utiliser, corrigez-moi évidemment, la structure ou des éléments qui vont exister pour leur redonner finalement une nouvelle vie. On n'est pas obligé de tout remplacer, de tout casser, de tout jeter, mais on peut réemployer certains matériaux, vous l'avez dit. Pour cette dalle, est-ce qu'il y a d'autres éléments, je sais pas, des portes, des fenêtres, des éléments mobiliers que vous avez réutilisés ou réemployés?
Comme élément mobilier symbolique, oui, il y a un ancien comptoir en laiton magnifique qui était complètement énorme, qui a été conservé et qu'on va redécouper et réutiliser pour l'accueil du hall. Mais il y a aussi le fait de garder des voiles béton brut dans le bâtiment, parce qu'il y avait une contrainte technique au moment du curage du bâtiment pour percer des trous dans ces voiles. Il fallait les nettoyer et donc du coup les laisser les recouvrir, ça allait amener des contraintes techniques avec des réapparitions de fissures dans le temps. Donc on choisit de les laisser brutes et plutôt que dépenser de l'argent à refaire de la peinture proprement, on fait intervenir des artistes qui vont intervenir un peu comme les Japonais avec le kintsugi quand ils mettent de l'or dans les fissures d'un vase. Et ben là, on met de l'art dans les défauts du bâtiment.
Quoi. Mmh. Et puis surtout, on garde un certain cachet aussi finalement. On a une trace de l'immeuble, de la vie d'avant du bâtiment qui se prolonge. C'est assez intéressant aussi parce que Je pensais à ce métier, ça pourrait être plus simple d'une certaine façon d'avoir une surface nue et d'imaginer des choses. Mais là, il y a une contrainte supplémentaire pour vous.
C'est souvent la contrainte qui rend les choses plus intéressantes parce que c'est là où on est le plus créatif, non, je pense.
C'est vrai aussi. Donc, contrainte budgétaire remplie, enfin en tout cas. Pour vous aussi, c'est pas évident l'équation économique parce qu'on parle beaucoup en ce moment de réversibilité. On sait que du fait que le bâti coûte cher, il coûte cher à détruire, il coûte cher à réaménager. Est-ce que l'équation économique, si on vous y retrouvez, là on est obligé, on est sur des grands équilibres, c'est pas évident comme équation à établir, Alexandre Montbrun.
Bien entendu que c'est pas évident à établir comme équation, mais la force qu'on a, c'est qu'effectivement, en étant promoteur, foncière et exploitant, on arrive à traiter cette équation économique en interne, là où peut-être d'autres opérateurs n'y arriveraient pas de la même façon. C'est cette force qu'on a qui nous permet d'équilibrer et d'arriver à trouver cet équilibre économique. Mais je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Bérangère au niveau du traitement, et dont vous parlez, la réutilisation,
le
réemploi et surtout la réutilisation quand on arrive sur un immeuble comme ça. Il y a un élément que Bérangère cite pas, mais que nous, on voit beaucoup plus qui a été utilisé, c'est qu'on n'a pas changé la nature extérieure et esthétique du bâtiment.
D'accord.
On a gardé 100% des façades du bâtiment en l'état. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris un bâtiment, on ne l'a pas curé, on n'a pas gardé son ossature, sa structure béton, et on ne l'a pas retravaillé. On a gardé maximum toutes les cages d'escalier, on en a créé quelques-unes, on a gardé toutes les façades du bâtiment, on a gardé tous les parements extérieurs, on a gardé la volumétrie, la géométrie du bâtiment, et ça fait partie aussi de la force du réemploi. C'est-à-dire qu'on a réussi à recréer, dans cette contrainte budgétaire dont vous parlez, un produit qui est équilibré économiquement. Dans une structure qui est à la base une structure bureau. À la différence de ce qu'on peut voir effectivement parfois, où on voit des immeubles entiers qui sont curés, où on garde un tiers, deux tiers, ou la totalité de la structure, et on vient rajouter autour des choses, etc. Nous, ça n'a pas du tout été le cas. Nous, la force, c'est qu'on a gardé le bâtiment dans son état.
Et comment on fait? C'est vrai qu'on a du mal à imaginer. J'imagine qu'il y avait des plateaux de bureaux. Alors, il y a une logique où on se dit, bah tiens, il va falloir faire des chambres pour les étudiants. Vous parliez de combien au final?
Il y aura 708.
700. Après, il y a les parties communes, mais ça, on peut imaginer qu'il y a, s'il y avait un hall de bureau, on peut le conserver ou ça peut se faire. Toute la logique de flux aussi pour apporter à chacun. J'imagine que c'est pas des douches communes quand même. Étudiants, hein, ils sont.
C'est le grand luxe. Chacun a son petit appartement avec sa petite douche à minima. Bien sûr.
Qu'est-ce qui était le plus contraignant, plus difficile pour vous? Alors, on a compris que vous aimiez la contrainte justement pour qui déclenchait aussi plus de créativité. Qu'est-ce qui était le plus difficile?
D'aider les gens à se repérer dans le bâtiment. Ouais. Ça, c'est une contrainte assez compliquée, mais on a un graphiste qui travaille sur le projet aussi, qui est très très bon en typo, donc ça aide pas mal. Et qui a la double casquette d'ailleurs, puisqu'il est aussi serrurier. Et on va monter un atelier sur le chantier, oui, avec lui et puis d'autres serruriers et d'autres menuisiers. Et on va réutiliser des déchets de chantier pour les transformer en petit mobilier directement sur le chantier, quoi, qu'on va remettre dans les ERP.
Donc il y aura directement du réemploi sur le chantier.
Exactement.
Voilà, même pas du producteur au consommateur, on reste dans les mêmes locaux. Du coup, quelle est la durée du projet? Ça va durer combien de temps avec son membre?
Eh bien écoutez, c'est un projet qu'on a débuté en curage, nous étions à mi-2019, et les premières cloisons se sont élevées tout début 2020. 21, pardon, excusez-moi, je 21. Vous dis, mais
cette
si je me trompe okay. d'année.
Année 2020, on a tendance à
cette
l'oublier.
Cette année 2020, effectivement.
C'était compliqué.
Cette année 2020, on a commencé effectivement, on a commencé au deuxième trimestre 2020, l'élévation des cloisons, donc on était après le premier confinement, donc ça a été compliqué. On a fini le Covid pendant, on a fini le curage pendant le premier confinement, enfin juste après, et on va livrer pour cet été 2022 afin d'assurer la rentrée universitaire de 2022 dès le mois de septembre, puisqu'on livre pour l'été 2022.
Et pour vous, Bérangère, est-ce que donc le projet a été rendu, la copie a été rendue, acceptée, etc. Est-ce que vous continuez à travailler sur ce projet ou on passe à autre chose ou il faut garder un œil? Comment ça se passe dans le déroulé?
Ah non, j'y étais encore aujourd'hui, donc...
Ah oui,
oui. Jusqu'à la fin, je pense que j'accrocherai les tableaux à la fin, je sais pas. Mais non, bien sûr, on continue le projet jusqu'au bout. Et puis même, on fait mieux que ça, puisqu'on a une photographe, Aurélie Sénaud, qui vient sur le chantier régulièrement et qui prend des photos de l'avancée du chantier et aussi des gens qui font le chantier, aussi bien les équipes de maîtrise d'œuvre que les compagnons sur le chantier, qui sont d'ailleurs ravis d'être mis en avant, puisque d'habitude, on les voit pas. Et on va essayer de de créer un petit jeu de piste, enfin de les mettre un peu en avant après dans le projet final en montrant des photos de chantier avec des petits QR codes, on pourra cliquer dessus et puis avoir une photo de
je sais avant, pas moi,
un
tel
oui et puis d'un ouvrier qui était là sur le chantier
bien sûr
voilà. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de les mettre en avant.
Quelques centaines de personnes qui doivent travailler sur
c'est
le chantier.
C'est ça, tout à fait, absolument. Ouais.
D'accord. Alors justement, c'est intéressant, Bérangère, vous disiez, je serai là pour accrocher les tableaux à la fin. Mais attention, on précise, on déconstruit les idées reçues dans ce podcast. L'idée forte, c'est de ne pas confondre l'architecte d'intérieur. Justement, ce n'est pas celui qui fait la décoration. Puisque vous l'avez dit, hein, s'il y a une vraie conception du bâtiment, c'est-à-dire que vous allez étudier la façon dont les gens vont vivre, ou vous l'imaginez pour plus tard, hein, c'est bien ça.
Oui, alors la décoration, on va dire, ça peut être un aspect. Donc là, évidemment que ça va jusqu'à la décoration pour les ERP, puisque un espace de coworking, il faut
les ERP, acronyme attention, on traduit.
Espace recevant du public. Établissement recevant du public.
Ouais. Avec des normes.
Voilà, c'est précis. Ça qui sont pas tout à fait les mêmes. Et donc oui, là, ça va jusqu'à un restaurant, évidemment qu'on va essayer de créer une ambiance. Mais c'est un aspect du projet. L'autre aspect, évidemment, il est de créer du lien justement entre les espaces des appartements, toutes les petites salles qui vont être disséminées dans les différents espaces, comment elles vont être utilisées, par qui, voilà, c'est de penser les fonctions. Si on fait une salle de réunion, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir combien de personnes va être dedans. Ça c'est une bonne chose, mais qu'est-ce qu'ils vont y faire? Parce que c'est pas tout de se dire qu'on fait une salle de 10 personnes, c'est pas la même chose s'ils font une expo, du brainstorming, une émission de radio, voilà, c'est pas du tout la même façon de s'approprier l'espace.
D'accord, vous allez rester pour réaménager le studio juste après l'émission, on vous garde. Alexandre Mambrin, une question justement sur quand on monte ce genre de projet, alors ça touche les étudiants, ça touche aussi à l'économie évidemment du territoire, de la région ou de la ville, Noisy-le-Grand en particulier. Comment on est reçu de la part des pouvoirs publics, la mairie, etc.
On est très bien reçu. On est très bien reçu. On a des très bonnes collaborations avec les mairies, avec les acteurs locaux. Tout simplement parce qu'on arrive et qu'on redynamise des quartiers, on sort des fois d'une friche ou d'un immeuble qui n'a plus de vie ou qui est en fin de vie et on retransforme, on redonne une nouvelle vie. On fait venir de la jeunesse. On fait venir des étudiants, des jeunes actifs, donc naturellement on finit la jeunesse. Donc
les gens peut-être qui vont rester s'implanter dans la
peut-être qu'ils vont rester, qui vont s'implanter, mais quoi qu'il en soit, on va créer dans ce tissu local des gens qui vont venir continuer de consommer ou qui vont consommer, qui vont créer de la vie, qui vont ramener. Là, on parle typiquement de Noisy-le-Grand. On était sur un immeuble de bureaux qui accueillait effectivement plusieurs centaines de personnes tous les jours, mais qui à 18h se vidait, il n'y avait plus personne. Là, on inverse. C'est-à-dire qu'à partir de 18h. Nos résidents vont venir réinvestir ce quartier de Noisy-le-Grand qui finalement se vidait le soir de tout occupant.
Ouais.
Et là, on recrée une vie au travers de ce quartier.
Et donc il peut y avoir une nouvelle dynamique de commerce aussi qui vont se mettre en place.
Complètement, bien sûr. On est en échange et en lien avec la ville d'ailleurs sur ces sujets-là en permanence.
Ouais.
Puisque la ville de Noisy requalifie le quartier tout autour.
Est-ce qu'il y a des aides du coup
Non, pas spécialement. On a du partenariat avec la ville, on a des échanges quasi permanents avec eux. Quoi.
Et surtout, on peut se demander à l'inverse, qu'est-ce qu'on aurait fait de ce bâtiment? C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une vraie problématique. Alors, je ne parle pas des bureaux dits prime, hein, dans l'hyper centre-ville ou la Défense avec des immeubles hyper modernes, mais il y a aussi des immeubles, malheureusement, de bureaux vétustes. Plus personne n'en veut. Passoire thermique, plus ou moins, donc extrêmement cher. Là, c'est la réversibilité, ça peut être une vraie solution.
Et on est dans le cas typique de ce que vous dites aujourd'hui. On est dans un immeuble qui rentre dans sa troisième vie, et sa troisième vie, ça va devenir du logement étudiant et jeune actif, alors qu'il a eu deux fois de vie de bureau, il a été réaménagé deux fois. Et aujourd'hui, on le sort de cette vie bureau pour le transformer, pour le rendre réversible. On a réussi à le rendre réversible, ce qui n'était peut-être pas comme ça que les architectes l'avaient pensé au départ.
Ouais.
Et c'est là tout le travail et toute l'intelligence des archis, mais aussi des archis d'intérieur, de le rendre réversible.
Et est-ce que vous pensez, justement, quand vous travaillez sur ce sujet, à justement cette modularité et le fait que peut-être un jour, dans 10, 20 ans, 30 ans plus, ça pourra de nouveau être retransformé, pourquoi pas, de nouveau en bureau ou autre chose?
C'est difficile d'imaginer quels seront les usages dans 30 ans, qu'est-ce qu'on pourra en faire. Mais il y a des espaces qui sont au niveau rue, qui vont être ouverts sur l'extérieur. Par exemple, effectivement, les étudiants ils vont revenir plutôt en nombre en fin de journée. Mais du coup, le restaurant qui est dans les espaces partagés, ben, il va être ouvert à l'extérieur, aux autres bureaux, aux autres immeubles de bureaux qui sont autour pour le déjeuner. Donc ça crée une certaine porosité des usages aussi, et puis entre les différentes populations qui peuvent se croiser, ce qui est plutôt pas mal.
Il y a aussi la question de l'intensification du bâtiment. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un immeuble de bureau, c'est utilisé au maximum à 30-40% pour les meilleurs. C'est-à-dire que bah voilà, la nuit, il n'y a personne. À partir de 18h, allez, 20h pour les plus travailleurs, il n'y a plus personne non plus. Et c'est un énorme gâchis, finalement. On commence à avoir des initiatives, je ne sais pas si vous les suivez, sur justement donner aussi, injecter, pourquoi pas partager ces espaces. Voilà, ici, on est dans un espace de coworking. On pourrait imaginer que le soir, bah voilà, il y a une cafette qui se transforme en bar ouvert au public. C'est des sujets dont vous parlez au sein d'Océanis Promotion. Vous étudiez, vous êtes au fait de ces concepts, j'imagine.
Pas typiquement sur ce que vous dites, mais on est toujours au fait des nouveaux concepts. On a toujours été dans la recherche de nouveaux concepts et de nouveaux produits. Le développement d'un campus éclat, c'est typiquement du nouveau produit. Personne n'avait jamais fait ça sur le territoire français, difficilement sur le territoire européen. Donc on est typiquement dans la recherche des nouveaux concepts. Précisément sur ce que vous dites, sur la mixité, oui, on y pense. Il faut aussi l'en mettre en œuvre. Ça dépend aussi de la localisation. Tout n'est pas faisable en fonction des régions et en fonction des sites. Mais c'est les choses qu'on pense, effectivement. Comme Bérangère l'a dit, aujourd'hui, on a une salle de sport qui va faire quasiment 300 mètres carrés. Il y a un espace de restauration qui va en faire 250, qui finalement, la journée, ne vont pas servir, puisque les étudiants seront dans leurs établissements scolaires. Et ben, on est en train de réfléchir à ouvrir ça et proposer une offre aux gens du quartier, aux gens des bureaux en face. On a deux grands immeubles de bureaux
en face. Les habitants de Nancy. Ce sont
de Noisy.
De Noisy, pardon.
Je ne sais pas, les Noiséens, je crois.
Peut-être. Ouais, bon.
Peut-être.
En tout cas, j'avoue, je ne sais pas. Avis à eux, hein, peut-être qu'il y aura une salle de gym en plus hyper moderne, hein, sûrement très bien équipée.
Magnifique.
À disposition.
Grâce à Bérangère.
Et puis voilà, c'est vrai, là aussi, vous y avez pensé. Enfin, vous...
Ah oui, on a même une salle de boxe crossfit.
Ah, ça c'est tendance. Il nous reste quelques minutes. Je voulais avoir votre avis, Bérangère, justement sur vous qui travaillez sur les bureaux, sur justement ce qui se passe en ce moment. Question d'actualité. On voit que la crise sanitaire a tout changé. Alors bon, il reste quand même quelques personnes au bureau, mais on voit que c'est quand même en train d'évoluer et que justement ces espaces, ils vont devoir muter. Est-ce que vous voyez déjà des changements dans les discussions que vous pouvez avoir, dans les projets qui arrivent, sur repenser ce bureau? En faire un espace un peu différent à l'heure où les gens, peut-être de plus en plus, vont travailler de chez eux.
Alors, c'est un sujet qui est accéléré avec le confinement parce que ça, comme de fait, tout le monde a fait du télétravail, ça a levé les derniers remparts. Mais nous, ça fait 6 ans qu'on fait ce type de bureau. On l'a fait pour une entreprise qui faisait de l'IT, on l'a fait là dernièrement pour Innocent, les jus de fruits. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'on fait, tiens, pour eux? Alors, vous avez cité deux exemples, IT, Innocent, c'est pas du tout les mêmes structures.
La démarche, c'est à peu près la même, c'est-à-dire que plus personne veut travailler dans des bureaux avec des dalles de 50 par 50 au plafond. Aucun jeune de moins de 30 ans veut aller bosser dans des bureaux comme ça. Tout le monde veut bosser dans des cool offices. Selon ce qu'on fait, les tâches qu'on va effectuer dans la journée, on n'a pas forcément besoin d'être derrière une table à hauteur 75 standard. On peut très bien être dans un canapé. Donc, ce qu'il faut, c'est créer...
Ou debout.
Oui, ou debout. Alors debout, c'est un peu particulier.
Il paraît que c'est meilleur pour le dos. Hein. Non, vous rigolez autour de la table, mais il paraît que c'est meilleur. On devrait, parce qu'on est souvent bouté.
Bon, oui, c'est vrai. L'idéal, c'est quand même de favoriser les circulations pour que les gens se déplacent et puissent se déplacer facilement et de créer des endroits où ils peuvent téléphoner, parce que quand même maintenant qu'il y a des portables partout, les open space, c'est bien, on échange ensemble, mais on échange aussi au téléphone, donc il faut pouvoir se lever et aller téléphoner vite fait sans bloquer toute une salle.
Bien sûr. Le cool office, ça ne veut pas dire le baby-foot, hein, parce qu'à un moment, c'était ça aussi.
Alors
c'était
non,
on garde la dalle 50-50 et puis on met un baby-foot, tout le monde est content.
Voilà, j'aime bien les baby-foot, hein, mais c'est vrai que trop de... C'est un point de vue personnel de mon retour d'expérience, mais trop d'infantilisation des personnes qui travaillent dans les espaces, je trouve ça un petit peu dangereux, en fait, parce que c'est juste pour les inciter à rester plus longtemps au bureau. Donc c'est bien de mettre des outils pour se détendre, mais attention que ce soit pas quelque chose de un piège.
Ouais. Donc tiens, deuxième exemple, Innocent là, quel était le concept, qu'est-ce que vous avez créé ou imaginé pour eux?
Eux typiquement, ils ont 3 niveaux, ils ont un seul niveau où ils ont vraiment un plateau de bureau en open space avec juste une petite salle de réunion de 4-5 personnes, et puis ensuite, en fait, l'étage sur lequel on arrive au rez-de-chaussée, c'est un espace chill avec des petits box pour travailler ouverts, des tables de pique-nique, voilà, ils font leur grande réunion où ils sont du lundi matin, par exemple. Il y a la cuisine ouverte, voilà. Et puis en sous-sol, ils ont plutôt d'autres salles de réunion et puis un espace un peu plus cool avec des fauteuils qu'on est en train de mettre en place là pour faire des visios, justement.
D'accord. Bah oui, effectivement, ça change. Alexandre, moi, vous aussi, bah, même question. Hein, les bureaux qui se transforment. Il va peut-être y avoir un retour justement de bureaux, alors on n'espère pas trop vétustes, mais qui vont servir à cette fameuse réversibilité. Peut-être de nombreux projets éclats vont voir le jour dans les années à venir.
On se le souhaite.
Bon, sans révéler le secret, on voit que les deux projets marchent très très bien et c'est en cours. Le groupe est en train de se développer. Est-ce qu'il y a d'autres zones justement hors Île-de-France
Il y a déjà d'autres projets éclats qui sont en cours puisqu'on est en même temps en travaux sur une opération à Villejuif pour Éclat Villejuif qui se livrera fin d'année 2022. Et on travaille actuellement l'extension qui vient de démarrer il y a 15 jours, hein, c'est tout frais, l'extension du site de Massy-Palaiseau qui va encore s'étendre de 650 logements avec encore 1000 m² de parties communes déjà annexées au quasi premier 4000 m². Et on travaille autour de l'Île-de-France plusieurs sites aujourd'hui qui sont plus ou moins signés, plus ou moins au stade de développement. Sur Paris, il y en a 3 ou 4, et sur certaines grandes métropoles d'Île-de-France aussi, il y en a 2 ou 3 encore qui tournent entre le sud-est, le sud-ouest, le nord de la France et la frontière franco-suisse. Voilà.
Bon, on rappelle à nos auditeurs qui prennent le podcast en route, hein, rien à voir avec la tour Éclat de Jean Nouvel, c'est les Éclat Campus, avec énormément de services à disposition des étudiants du monde entier d'ailleurs, hein, plus de 89 nationalités.
C'est ça, sur Massy-Palaiseau, c'est 89 nationalités, on est monté jusqu'à 89 nationalités.
Très bien, ouais, c'est une belle diversité. Bérangère, les prochains projets, là, les prochains pour 2022, vous planchez sur quoi? Alors, on a compris, hein, sur Éclat qui n'est pas fini. Il y a d'autres choses en ce moment, vous postulez à d'autres appels d'offres
Alors, je postule rarement à des appels d'offres.
Enfin, je ne sais pas si on peut postuler, mais on vous appelle, le téléphone sonne.
Je continue de travailler sur des projets de bureaux, justement, quand il y a une réflexion comme ça sur les nouveaux usages. Et puis des appartements particuliers, parce que je trouve que ça permet de garder cette approche empathique sur les projets, qui est nécessaire, je trouve. Et puis, c'est toujours sympa, les particuliers. Et puis du resto, enfin, toujours un peu le...
Bah, c'est pas pareil, bah, particulier, professionnel, quand même, il y a des enjeux très différents, c'est unique.
Et non, c'est pas pareil. Mais quand on vend un concept pour du professionnel, par exemple un restaurant, c'est un concept qu'on développe. Ça nécessite moins de se mettre à la place du client, du maître d'ouvrage. Et moi, j'aime bien ça, en fait, plusieurs vies en une, le travail du comédien, où on doit se mettre à la place de l'usager. Donc, de continuer de faire du particulier, ça me permet de continuer de faire ça.
D'accord. Bon, on rappelle le nom de votre agence, Bébonus. .fr hein, pour en savoir plus. Bérangère Tabutin, n'hésitez pas donc à la contacter. En tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast.
Merci.
Maxandre Montbrun, merci également de nous avoir présenté ce projet.
Merci à vous.
Impressionnant. Directeur de projet donc chez Océanis Promotion. Et puis merci à Yves Paulet qui a préparé cette émission à la technique. C'était Baptiste Plouchard. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Regard Croisé Architecte d'Intérieur.
Architecture intérieure, regard croisé, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Coustet.